Merci, groupe Louange. C'est magnifique de pouvoir louer Dieu comme ça. Maintenant, c'est Patrick Hanegger qui a préparé un message pour nous. Est-ce que c'était difficile pour toi de préparer quelque chose où on parle au nom de Dieu?
Alors, on parle au nom de Dieu, c'est vrai, mais ça reste quand même difficile, surtout quand c'est la première fois. Et de trouver en fait les bons mots qui j'espère nous parleront ce matin.
C'est pas grave, on a parlé du pardon ce matin. Je vais prier pour toi et puis pour nous. Père, je te prie que ton esprit qui existait depuis la fondation du monde agit parmi nous, donne des mots à chacun individuellement. Seigneur, que ce message que Patrick a préparé puisse nous remonter et nous accorder ta paix. Et la paix de Dieu soit avec toi, Patrick, maintenant. Amen.
Merci. Merci. Bonjour à chacune et chacun. Nous terminons aujourd'hui la série sur l'Ecclésiaste. Et nous allons nous pencher particulièrement sur le thème de la sagesse et de la gestion. Pour commencer, je vous propose de lire le texte dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, depuis les versets 7 jusqu'au chapitre 11, verset 7. Excusez-moi, c'est Ecclésiaste 9, versets 17 à 11, 7. Versets 17 à 11, 7, et je vais la lire dans la version second 21. C'est une lecture assez dense, je vous le dis tout de suite. « Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles. Et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles, pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui ? Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Et finalement, sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main au repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que l'un et l'autre seront également bons ? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà un texte dense qui pour moi sonne un peu comme une injonction à mes oreilles. En le lisant plusieurs fois, j'ai toutefois été frappé par le nombre de versets qui peuvent s'appliquer tel quel au monde actuel. N'est-ce pas interpellant ? Revenons au thème, sagesse et gestion. Je pourrais aussi remplacer le mot « gestion » par notre attitude, par notre vie quotidienne. En effet, pour moi, la gestion dans le texte que nous venons de lire n'est pas une notion uniquement économique ou entrepreneuriale, mais c'est une attitude de tous les jours, une manière de fonctionner en quelque sorte. Je vais aborder ce thème avec parfois un certain focus sur le monde professionnel, mais je crois sincèrement que les éléments qui nous sont donnés par les textes s'applique particulièrement, comme je viens de le dire, à notre vie de chaque jour, et pas uniquement à un monde d'affaires. Et si ça s'applique dans notre attitude, ça s'applique finalement dans notre vie en général. J'aimerais reprendre le texte avec vous ce matin en gardant à l'esprit trois points. L'attitude, comme je viens de le dire, les actions, mais également les encouragements. En préambule, comme je le disais il y a quelques instants, ce texte qui est en fait extrêmement ancien, vu qu'il a été écrit entre 970 et 930 avant Jésus-Christ, il est finalement éminemment moderne. J'ai envie de dire malheureusement, certaines situations ou attitudes décrites à l'époque sont tout à fait identiques et similaires au jour d'aujourd'hui. Cela est certainement triste, mais nous rappelle, si nécessaire, notre position humaine qui, au fil des siècles, n'a pas fondamentalement changé. Mais revenons au texte. Pour exhorter à la sagesse, le prédicateur utilise une autre forme littéraire, les proverbes. Ils sont là sans ordre apparent, difficiles à comprendre parfois. Nous risquons de les lire rapidement et de les vider de leur contenu pour y substituer nos propres idées. Mais notre sagesse est d'y être attentif, d'essayer de les comprendre et de demander à Dieu de nous éclairer sur leur signification. Bien souvent, ils reviennent à notre mémoire dans les moments cruciaux de la vie. Ils nous parlent alors avec force pour éclairer nos choix et nos actions. Donc, pour nous guider ce matin, je me suis inspiré de plusieurs études sur le sujet qui nous occupe et je vous propose de l'aborder, le texte, en différentes parties. Si nous reprenons, mais je ne vais pas bien sûr relire l'entier des versets, mais si nous prenons tout d'abord la fragilité de la sagesse, je prendrai simplement deux versets. On a parlé des mouches mortes qui infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse ou sur la gloire. Ou alors, le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Convaincu de l'aboutissement tragique réservé à l'homme égoïste, l'Ecclésiaste est vraiment insistant et déclare sans embâche « Ces mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. » Autrement dit, à quoi sert le parfum de la beauté, de la sagesse, de la richesse ou du savoir lorsqu'il est infecté par l'égoïsme? Pour le dire autrement, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment quelque chose d'insignifiant, sans prix, sans vie, peut-il avoir un résultat finalement aussi désastreux? Non seulement le parfum n'est plus bon à rien, mais il sent mauvais. De même, un peu de folie suffit à gâcher toute une vie de sagesse. La réputation de sagesse servira alors à justifier le mal. Je pense que la sagesse est fragile. Elle ne peut neutraliser les conséquences désastreuses du mal, comme il est dit à la fin du chapitre 9, au verset 18. Cependant, le sage honore la sagesse et consulte son cœur. C'est mobile profond. Il a son cœur à sa droite, contrairement à ce qui est habituel, mais le sol, lui, suit le penchant naturel vers le mal, son cœur à sa gauche. Pourtant, bien que le cœur soit caché, l'état réel d'un homme se manifeste vite. La conduite de celui qui fait le mal témoigne à tous du manque de solidité de sa réflexion intérieure. Si nous poursuivons maintenant avec la sagesse devant l'autorité, les versets 4 à 7, 16, 17 et 20, encore une fois, j'en prendrai simplement deux. D'abord le verset 4 qui dit « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position car le calme évite de grands péchés. » Ou alors au verset 6, « La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. » Dans le monde professionnel en particulier, comment réagissons-nous lorsque notre supérieur s'irrite contre nous? Instinctivement, nous avons envie de montrer notre mécontentement, de quitter notre place, soit par la fuite, soit peut-être par l'irritation. Le conseil du prédicateur peut nous laisser désemparés. Combien de fois, mes amis, avons-nous l'impression d'être emportés par le rythme imposé, par l'environnement hostile? Où trouver la force pour montrer cette douceur? Il faut bien plus de force pour rester doux que pour s'irriter, et la douceur est bien plus efficace. La langue douce brise toutes les résistances. C'est dans Proverbes, chapitre 25, verset 15. ou alors cette force est en Dieu. Dans Colossiens 1, verset 11, il est dit « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » Si nous revenons à l'Ecclésiaste et que nous continuons dans cette partie de la sagesse devant l'autorité, les versets suivants, il est dit finalement qu'il est difficile à vivre encore dans des situations où l'incompétence est au pouvoir. Le prédicateur ne donne pas de solution, mais il contraste le fait. C'est un signe du désordre, une erreur, venant du plus haut de la hiérarchie humaine. Par faiblesse, les plus hauts placés abandonnent souvent leurs responsabilités et ceux qui en dépendent en profitent pour en tirer avantage. Si nous poursuivons plus loin vers les versets 16 et 17, malheur à toi, terre, bienheureuse toi, terre, c'est chaque fois le début de chacun des deux versets, l'Ecclésiaste le déclare solennellement, il n'y a pas d'autre aboutissement quand le malheur, quand un pouvoir immature fait du plaisir le but de la vie. C'est un signe du jugement de Dieu quand le pouvoir est aux mains des enfants de l'inexpérience. À l'inverse, quel que soit le groupe, lorsque les responsables sont nobles d'esprit et recherchent le bien, il en résulte du bonheur pour tous. Nous désirons ce moment où le Seigneur Jésus, l'homme noble par excellence, établira son règne de justice et de paix. Je vous propose de continuer notre réflexion avec le sujet de la sagesse dans nos activités et en fait de la gestion de ces activités ou comment nous pouvons gérer ces éléments dans notre vie au quotidien. Pour ceux qui veulent se référer au texte, c'est essentiellement dans les versets 8 à 10 du chapitre 10 ainsi qu'aux versets 18 et 19. Je reprends simplement le verset 9. Tout d'abord, celui qui remue des pierres sera blessé par elles et celui qui fend du bois s'expose au danger. Ou alors, au verset 18, quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre, quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. Les versets 8 à 10 en particulier sont des panneaux avertisseurs. Toutes les activités comportent des dangers particuliers, surtout si elles sont faites dans une mauvaise intention. Celui qui creuse une fosse risque d'y tomber lui-même, et combien plus s'il voulait tendre un piège à autrui. Celui qui renverse une clôture peut se faire mordre, surtout s'il désirait empiéter sur le domaine de son prochain. Dieu nous a donc fixé des règles, des limites, qui régissent le monde moral pour notre bonheur et notre sécurité. À mon avis, les renverser, c'est s'exposer à la morsure du serpent, l'image du diable. Les activités positives et énergiques, remuer des pierres ou fondre du bois, comportent elles aussi leur part de danger. Toutes nos entreprises demandent de la sagesse. À la prudence, il faut ajouter encore la prévoyance pour éviter des efforts inutiles et pour amener le succès. Au verset 18, il est parlé du danger de la paresse. Le danger de la paresse nous guette surtout dans les domaines où il faut de la persévérance pour maintenir les choses en bon état, comme la maison, par exemple. Les effets négatifs ou positifs apparaissent à long terme. Des infidélités de détails répétées préparent finalement une grave chute. À l'inverse, les grands résultats sont souvent la conséquence d'une fidélité dans les petites choses. Je suis certain que prier nous évitera aussi de limiter notre horizon matériel, du pain, du vin et plus encore de l'argent, comme il est mentionné au verset 19. Elle nous gardera dans la crainte pour ne pas prononcer des paroles contre les autorités. Finalement, je vous invite à nous concentrer sur les paroles qui sont finalement le test de la sagesse. C'est essentiellement les versets 11 à 15 du chapitre 10. Je ne pense pas que j'arrive à tous les mettre en même temps, mais je vais déjà mettre les 11 à 14. Par exemple, au verset 12, « Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. » La parole est le test de la sagesse, un test qui ne trompe pas. En effet, on peut dire que l'insensé se vante, s'égare et trompe ceux qui l'écoutent. Il multiplie des paroles mordantes. D'un autre côté, le sage prononce des paroles pleines de grâce, une fontaine de vie, comme on peut le retrouver aussi dans les Proverbes, chapitre 10, verset 11, ou chapitre 13, verset 14. Prenons garde, mes amis, à nos paroles. Ne parlons pas inutilement. Nous ne pouvons maîtriser notre langue par nous-mêmes. Il nous faut le secours du Saint-Esprit. Pour la dernière partie de notre réflexion, penchons-nous sur les activités saines et les réjouissances proposées par l'Ecclésiaste. Et là, c'est plutôt la dernière partie du texte, donc le chapitre 11, les versets 1 à 7. Je vais mettre peut-être le début. « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Il s'agit là d'une exhortation à la bienfaisance, à l'activité et à la joie. L'Ecclésiaste a souvent recommandé la prudence, comme on vient de le lire à travers un certain nombre de versets. Maintenant, il met en garde contre l'abus de cette vertu et il veut qu'on sache aussi risquer quelque chose. La bienfaisance aura sa récompense, il faut la pratiquer sans renvoi. Au premier verset, lorsqu'on parle de la surface des eaux, le pain semble perdu, mais ce n'est pas là une raison pour ne prêter ou ne donner qu'à qui peut rendre. Longtemps après, peut-être, on le retrouvera. Puis il est dit, fais-en part à 7 et même à 8, à plusieurs, à beaucoup. Celui-ci se fera des amis qui, en cas de revers imprévu, le secourront. Puis au verset 3, cet arbre qui tombe et gît inerte, c'est le riche qui meurt et ne peut plus faire de bien. L'homme ne doit pas se laisser paralyser dans son activité par l'ignorance où il en est de l'avenir et du futur. L'incertitude de l'avenir, à mon goût, ne justifie point l'inaction. Faisons ce que nous devons et laissons à Dieu le reste. Nous ne sommes pas au fait des projets de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est qu'il dirige tout avec sagesse. Si donc nous nous conformons aux règles de la sagesse, nous sommes finalement sur la bonne voie. C'est pourquoi nous ne pouvons nous permettre de lâche abstention. Enfin, au verset 6, les semailles sont souvent l'image de la bienfaisance, mais elles figurent aussi, d'une manière générale, de l'activité humaine impliquant un sacrifice et des efforts qui ne trouvent leur récompense que dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas de travailler, il faut travailler joyeusement. Pas sûr que je me dise ça tous les matins en me levant, mais... Si l'ignorance que nous avons de l'avenir ne doit point paralyser nos bras, la connaissance du monde actuel ne doit pas nous empêcher de jouir des biens présents. Je crois que c'est aussi assez clair dans le texte qu'on vient de lire. Si nous regardons, mes amis, de près l'environnement dans lequel nous vivons, je suis certain, et en ce qui me concerne, j'ai certainement pu expérimenter, ou l'expérimenter, que nous reconnaissons beaucoup des situations décrites par l'Ecclésiaste. Combien de fois avons-nous à faire face à des collègues, des responsables, des autorités, quelles qu'elles soient, qui sont omnubilées par le pouvoir, l'argent, la réussite, l'échelle sociale, et qui sont prêts à tout pour parvenir à leur fin? Ou de manière plus générale, comment suis-je découragé par telle ou telle situation? Comment réagissons-nous? Quelle est notre, quelle est ma position? Sur quel fondement puis-je m'appuyer? Comme je l'ai dit au début de cette réflexion, j'ai trouvé que la réponse, entre autres, se trouvait dans le texte de ce matin. Je ne vous cacherai pas que ce n'était pas à la première lecture, mais c'était en le relisant de multiples fois. Je crois profondément que les Écrits de ce jour nous appellent encore une fois à avoir une attitude sage, comme nous venons de le voir au fil des versets, en particulier du chapitre 10, mais il nous donne aussi des encouragements dans les premiers versets du chapitre 11. Et finalement, la gestion, pour moi, c'est notre gestion de toute situation. Notre approche face aux problèmes qui surgissent, notre réponse aux obstacles qui nous font face et qui appellent une certaine sagesse. Notre place, quelle qu'elle soit dans la société, nous permet d'insuffler une réalité différente. Oui, parfois c'est difficile. Et je suis le premier à confesser. Oui, parfois nous sommes découragés. Mais notre gestion quotidienne, où que nous soyons dans le monde estudiantin, la vie professionnelle, les activités à la maison, au foyer, les activités bénévoles, le temps de la retraite, nous sommes appelés à agir, à vivre en accord avec nos valeurs chrétiennes et surtout avec l'aide de notre Père. En résumé, mes amis, voilà ce que je crois être la signification de la parole de ces versets écrits par l'Ecclésiaste pour nous aujourd'hui en 2015. Et je terminerai ce message avec la seconde partie du verset 10 du chapitre 10. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Amen.